Par trois fois dans cet évangile, il nous est annoncé « le Seigneur vient ». Il y a une certitude « le Seigneur vient ». Et je me demande si cette certitude est ancrée dans notre cœur ou dans notre conscience. On peut se poser la question, qui est-ce qui s'est levé ce matin en se disant « le Seigneur vient ». Qui est-ce qui est entré dans cette église en se disant « le Seigneur vient ». On n'est peut-être pas forcément très nombreux à avoir fait ça, mais c'est un signe quand même. On nous affirme justement « le Seigneur vient ». Et en fait, voilà que cette chose-là ne fait pas partie de mon existence. Voilà que cette chose-là semble ne pas avoir de poids dans mon existence. Et pourtant, j'allais dire, si vous êtes ici à la messe, c'est que vous avez envie de vivre autrement que simplement comme un petit mammifère. C'est de très gentils petits mammifères. Leur journée est occupée à se nourrir, à ne pas être dévorés par les autres, à se reproduire au moment du printemps, et puis jusqu'à ce que leur vie se termine. Vous êtes ici parce que vous avez conscience qu'il y a un lien avec le Seigneur, que vous avez une dimension spirituelle aussi, pas simplement matérielle et intellectuelle. Le Seigneur vient. Et pourtant, cette notion de la venue du Seigneur semble ne pas s'ancrer dans notre esprit. Eh bien, c'est pour ça que au premier jour de l'Avent, nous est donnée cette affirmation, le Seigneur vient. Vous savez, si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, quand vous sortirez de l'église, vous interroger, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient. Retenez ceci, le Seigneur vient. Vous savez, nous sommes appelés à nous y préparer comme, avec sagesse, on peut préparer sa succession, se souvenant qu'on est mortel, ou comme quand on passe un examen, on sait bien qu'à la fin de l'heure, il va falloir rendre la feuille. Il faut s'y préparer aussi. Sinon, vous vous endormez sur votre feuille, vous n'aurez rien rendu. Il s'agit de vivre la vie qui nous est donnée, et cette vie nous mène à une rencontre. Et c'est peut-être la deuxième chose que nous pouvons entendre, c'est que le Seigneur vient, c'est une bonne nouvelle. Et là encore, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien ancré dans notre cœur. Je suis en train de répéter une phrase, il y en a peut-être certains qui ont vu cette série un peu sulfureuse, Game of Thrones, le trône de fer. Et vous savez, il y avait ce refrain dans une des factions, l'hiver vient. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, il ne s'agit pas de se marteler, le Seigneur vient, comme si c'était une mauvaise nouvelle. Parfois, on se sent bousculé. Mais j'avais des projets, je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Et j'ai l'impression, Seigneur, tu me déranges dans mon existence. En fait, le Seigneur vient, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que je vais découvrir sa personne. Il est là et je n'ai plus peur. Je voudrais peut-être nous donner l'occasion de sentir qu'est-ce que ça veut dire une bonne nouvelle. Je prenais l'image des concours. Vous savez, un jour, parfois, on prépare ces concours, alors on sait qu'on a un projet après pour partir en vacances. Mais tant que les concours ne sont pas passés, il y a une certaine angoisse dans notre cœur, il y a un poids dans notre cœur. Le Seigneur vient, c'est, j'allais dire, ce soulagement de notre cœur quand les concours sont passés. Tout d'un coup, il y a une chape de pression qui s'en va. Le Seigneur est là. Ou bien, j'allais dire, encore une image qui peut essayer d'évoquer quelque chose dans notre cœur. Vous aviez envoyé vos enfants en camp de vacances. Les premiers jours, vous allez dire, ça soulage un peu. Après, quand même, ça commence à vous manquer. Quand la semaine arrive, ça fait une semaine qu'on ne les a pas vus. Et voilà, ils sont là, ils sont sur le retour. Et il y a une joie dans notre cœur de pouvoir ouvrir nos bras et de les refermer sur leur personne et de sentir leurs bras se refermer sur nous. Le Seigneur vient, c'est cette rencontre qui s'accomplit. J'ai entendu parler du Seigneur dans toute ma vie. J'ai reçu le Seigneur dans l'Eucharistie, mais il était voilé sous les espèces du pain. Et là, je le vois comme nous nous voyons. Et là, je peux le saisir comme nous pouvons nous toucher, comme nous nous sommes peut-être serrés la main ce matin, comme nous nous sommes pris dans les bras. Le Seigneur vient, c'est cette rencontre qui s'accomplit. Il nous faut faire mémoire, j'allais dire, de cette joie de ce soulagement aussi de nous retrouver pour comprendre la portée, une partie de la portée de ce « Seigneur vient, le Seigneur vient ». Parce que le Seigneur vient, en fait, c'est aussi ce que mon cœur attend. Mais ça peut nous sembler aussi un peu étrange. Comment ça, j'attends que le Seigneur vient ? Mais j'en ai pas vraiment l'impression. Alors je voudrais rappeler quelques éléments de notre vie qui sont en fait équivalents justement à cette attente du Seigneur vient. Nous ne savions pas le formuler ainsi, mais c'était l'équivalent de cela. Peut-être dans notre vie, il y a des fois où nous nous sommes dit, il y a des rendez-vous qui ont été manqués. J'ai commencé à connaître quelqu'un et puis l'amitié n'a pas pu se faire, soit parce qu'il est parti, soit parce qu'on s'est brouillé à un moment. On a peut-être essayé de se réconcilier, mais j'ai laissé mon amour propre parler, où il y a une parole malheureuse, et finalement ça n'a pas abouti. Il y avait quelque chose à faire, il y avait plus à faire, et ça n'a pas eu lieu. Il y a quelque chose d'inachevé. Si je sens ça dans mon cœur, c'est en fait que j'aspire à la venue de celui qui est la plénitude de la communion. J'étais fait pour une communion, elle n'a pas eu lieu. Peut-être que il y a des moments dans mon existence aussi où j'ai l'impression de ne pas avoir été vu, de ne pas avoir été reconnu. Oh, on a bien vu que j'étais par là. Mais vous savez bien qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vous a vu, quelqu'un qui vous a souri en ayant connaissance de qui est votre personne, quelqu'un qui a prononcé votre nom, et la façon dont il le prononçait, ça a mis une chaleur, une joie, une force dans votre cœur. Et vous dites, ça n'a pas eu lieu. Il y a des choses qui n'ont pas été vues, ça n'a pas été perçu. Là encore, c'est le signe que dans votre cœur, vous attendez que le Seigneur vient, celui qui établira, qui fera reconnaître la portée de tous nos actes, la conséquence de tous nos actes, parfois notamment ces actes de bonté que l'on a fait que personne n'a vu, ces tentatives que l'on avait faites pour faciliter les choses, pour les remettre en ordre, et personne ne les avait vues. Le Seigneur le dévoilera. Cette aspiration que j'ai dans mon cœur, c'est une manifestation que j'attends que le Seigneur vienne. J'attends sa venue. Quand j'ai l'impression que dans ma vie, il y a un potentiel qui n'est pas vraiment atteint. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Peut-être que je n'ai pas su, ou qu'un autre est passé et m'a fait de l'ombre. Ou au contraire, j'avais vu quelqu'un, j'étais témoin de son talent, j'ai essayé de le faire connaître, j'ai pas trouvé les mots. C'est encore le signe que j'attends que le Seigneur vient, celui dont nous avons été créés à l'image. Et parfois on voudrait dire, mais oui, regarde, vois le visage du Christ, tu reconnais bien cette ressemblance. Et j'ai pas su le dire, j'ai pas su le montrer, parce que sa présence n'était pas suffisamment forte et mes mots étaient trop faibles pour l'évoquer. C'est que j'attends en fait que le Seigneur vient. C'est le désir que j'ai que le Seigneur vient. Alors peut-être que, du coup, cette réalité de la venue du Seigneur nous apparaît comme quelque chose qui nous est plus familière. Parce que c'est ça que le Seigneur veut réaliser en ce début de l'Avent, nous permettre de comprendre que nous voulons cet accomplissement de la vie. Sa venue, c'est aussi une limite terminale mise aux forces du mal. Combien de fois, parfois, il peut nous sembler de dire, mais pourquoi est-ce que les forces du mal peuvent encore se déployer? Pourquoi est-ce que le cri de ceux qui sont oppressés, de ceux qui sont victimes, de ceux qui sont maltraités n'est pas entendu? Pourquoi est-ce que on n'a pas la force de mener la justice? La venue du Seigneur le permettra et le permettra jusqu'au bout, au point que les plaies qui faisaient mourir de nos histoires deviendront comme celles de Jésus des plaies glorieuses. Notre histoire, au lieu de sembler aller vers un cul-de-sac, vers un échec, parce que nous sommes trop limités, trop faibles, trouvera dans cette rencontre son accomplissement. Le Seigneur vient, c'est une bonne nouvelle, c'est la nouvelle à laquelle notre cœur aspire. Et du coup, nous comprenons alors que nous pouvons appelés, nous pouvons être appelés, et nous pouvons nous préparer à être prêts pour vivre comme Jésus, pour le suivre. Il nous invite à aimer comme il aime, nous pouvons nous préparer à cela. Et comment ? Mais j'allais dire, grâce à ce témoignage tout particulier, vous voyez, il y en a un qui se met en route, justement, et on est appelé à se mettre en route derrière Saint Matthieu. Saint Matthieu, celui qui a connu Jésus au plus près, celui qui a su répondre. Et vous savez, quand on entend le témoignage de quelqu'un, bien sûr, c'est le témoignage de sa vie, de sa conversion, c'est pas la nôtre, mais ça nous donne des idées, ça nous éclaire. Je voudrais soulever quelques éléments de la vie de Saint Matthieu. Saint Matthieu, c'était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. C'était un collaborateur du pouvoir romain. Il était du côté du plus fort. Il avait un confort et une sécurité. Et voilà que le jour où Jésus l'appelle, il va abandonner tout ça, ce confort, cette sécurité pour suivre Jésus. Ça, c'est intéressant parce que peut-être que je me rends compte, j'ai un certain confort de vie, j'ai certaines habitudes, et je n'ai pas réussi à les briser. Je sais que ce n'est pas très bien. Saint Matthieu, il devait se dire aussi, ça va peut-être porter une peine dans son cœur, je ne suis pas fidèle au peuple d'Israël, je ne suis pas fidèle à l'alliance avec ce que je fais, j'oppresse d'une certaine manière mon propre peuple. Et voilà qu'il reçoit la grâce, la force de se mettre en route. Si le Seigneur l'a fait pour Saint Matthieu, c'est le signe. Seigneur, ce que tu as fait pour Saint Matthieu, je peux te le demander alors. Puisque tu l'as fait pour lui, ça veut dire que tu veux le faire pour moi. Sinon, tu ne me le montrerais pas. Alors Seigneur, en cette année, donne-moi cette capacité de me mettre en route comme Saint Matthieu. Peut-être que je vais découvrir, vous savez, quand Jésus appelle Matthieu, alors qu'il est à son comptoir de publicain, Matthieu réagit immédiatement. Alors il dit, oh là là, comment il a fait pour quitter tout de suite. Mais peut-être que je vais redécouvrir là un élément de la vie spirituelle. Vous savez que ça nous a... Je vais prendre une image d'abord pour en parler. Quand notre réveil sonne le matin, on a peut-être les yeux plus ou moins collés, les paupières plus ou moins collées au visage, mais au moment où il sonne, il y a 3 secondes où on peut se lever. Si on les laisse passer, on est reparti pour un moment. Mais il y a bien 3 secondes où tout d'un coup, il y a une lumière en nous qui permet qu'on agisse. On voit ça aussi dans la tentation. On voit que c'est peut-être le moment où il faudrait aider quelqu'un. Tiens, au moment où on l'a vu, il y a aussi 3 secondes où je peux m'y mettre. Si je ne réagis pas dans ces 3 secondes, je suis réinvesti par ma paresse et je ne bouge plus. Je regarde un programme à la télévision, sur Internet, avec des images qui ne sont pas pures. J'ai là aussi 3 secondes pour dire non, je ne veux pas ça, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Si je saisis ces 3 secondes, eh bien je donne à la grâce de Dieu de prendre toute sa force en moi. Eh bien c'est ce que Saint Matthieu a mis en œuvre. Peut-être que je peux redécouvrir grâce à lui la force de ces 3 secondes qui sont données à ma conscience pour demeurer fidèle à Jésus. Saint Matthieu, donc, il était aussi celui qui, dans sa façon de vivre, était prêt à marcher avec les Romains. Il avait ses opinions politiques. Dans le groupe des 12, il y en a un autre qui s'appelle Simon le Zélote. Alors lui, c'est l'ultranationaliste. On peut se demander, comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre ensemble ? Non, parce qu'ils ont passé le jour, la nuit, les repas, et vous en avez un qui est collaborateur des Romains, et l'autre qui est l'ultranationaliste. Comment ont-ils fait pour ne pas se taper dessus toute la journée ? Alors, de fait, ils se disputent assez régulièrement. Mais n'empêche que ce groupe des 12 a été témoin de la parole de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie. Là aussi, je découvre quelque chose. Seigneur, tu nous apprends donc à vivre en communion au-delà de nos différences. Eh bien, ça, je veux l'apprendre avec toi. Le groupe des 12, le groupe des disciples de Jésus, ce n'est pas un groupe uniforme. C'est un groupe où il y a des spécificités qui peuvent demeurer et qui auront à s'exprimer. Alors peut-être que, en ce temps de l'Avent, en cette Eucharistie, nous pouvons demander au Seigneur, « Seigneur, ancre dans mon cœur la certitude que tu viens, ancre dans mon cœur la certitude que c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle à laquelle mon cœur aspire, et puis donne-moi à l'école de Saint Matthieu de te suivre. Donne-moi, au long de cet avant, peut-être de relire l'Évangile selon saint Matthieu, peut-être pendant toute cette année, pour découvrir comment il t'a suivi, et moi aussi recevoir la même grâce. Le Seigneur vient, puissions-nous nous ouvrir à cette grâce, puissions-nous nous aider les uns les autres, comme le groupe des 12, à suivre Jésus. Amen.